Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivaine.
Bonjour Annie Ernaux.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. On est très heureux de vous recevoir parce que vous êtes une des voix les plus puissantes de la littérature. Une voix qui porte au-delà de la France. Vos livres sont traduits à l'étranger. Vous êtes étudiée dans les universités américaines notamment. Et vous êtes une voix rare également. Vous prenez la parole avec parcimonie. Vous la prenez d'ailleurs cette semaine dans la très bonne revue Zadig, où vous accordez un long entretien où vous parlez de votre vie, de votre œuvre, de tout ça. D'abord, je voudrais vous interroger sur les femmes. Vous avez traversé tous les combats féministes de ces 50 dernières années. Diriez-vous que ce qui se passe aujourd'hui, avec MeToo, avec tous ces témoignages, avec la grande mobilisation des femmes, diriez-vous qu'il y a quelque chose qui change durablement, qu'il y a une nouvelle donne entre les hommes et les femmes ?
Alors, je pense que effectivement, c'est un grand tournant. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais perçu une telle détermination de la part des femmes mondiale, enfin presque mondiale, depuis en fait les années 70. Surtout après des années de reflux. Il y a eu une époque dans les années 90 où se dire féministe était pratiquement impossible. On vous regardait comme un dinosaure. Et c'est une phrase que je me souviens avoir écrite dans mon journal. Je crois que je mourrais sans avoir vu la révolution des femmes. Et donc le mouvement MeToo, il y a 2 ans, a été pour moi comme une grande lumière, une déflagration que je n'attendais plus au fond. Bon, vu qu'il y a eu des réactions qui étaient pour moi absolument désolante de la part de femmes célèbres en France pour aller au secours.
Notamment de la Tribune,
oui,
de la Tribune avec Catherine Deneuve, Catherine Millet, les autres,
etc. Des privilégiés qui ne connaissent pas la réalité des rapports entre les hommes et les femmes dans le milieu du travail, dans le métro, partout. Ils ont eu le privilège d'avoir de la liberté, de pouvoir dire non aussi, certainement.
Donc vous pensez qu'elles ne parlent pas assez pour celles qui ne peuvent pas dire non, qui sont plus fragiles?
Mais pour la majorité des femmes. Et d'autant plus que la société actuelle, à la différence, pour moi, des années 70, c'est que le sexe est partout. Et il y a comme une injonction à faire l'amour de toutes les manières.
Du coup, les jeunes ne font plus l'amour. Il paraît qu'ils font de moins en moins l'amour, puisqu'il est partout, donc il y a plus de...
Il est partout et au fond, il est dévalorisé. Même le sexe est devenu d'une banalité stupéfiante, désolante. Donc, dans ce contexte, la faculté de dire non des filles, ça n'avait pas changé au fond. Peut-être même avait-elle empiré depuis le temps où j'avais 18 ans.
Vous parlez des privilégiés. Est-ce que vous diriez qu'il y a quand même eu dans ce mouvement-là, et notamment dans Balance ton port sur les réseaux sociaux, parfois des excès ?
Je n'aime pas ce terme d'excès. Le mot excès est toujours prononcé lorsqu'il s'agit justement des dominés qui réclament des droits. Oui, il y a eu des excès, mais bien sûr, je veux dire, je ne veux même pas parler de ça. Je vais mettre ça en relation avec les Gilets jaunes. Quand il y a un mouvement de révolte, et c'est un mouvement de révolte des femmes, eh bien, oui, la contention qu'on a subie fait qu'on crie plus fort et quelquefois, peut-être à tort. Voilà.
Mais ce n'est pas grave, vous dites.
Ce n'est pas grave.
Peu importe les excès, l'important, c'est la cause, c'est la finalité.
Oui.
Il y a encore des combats ?
Mais bien sûr.
Pourquoi ? Pour l'égalité salariale ?
Pour l'égalité salariale, pour la représentation des femmes dans beaucoup de domaines. Je dirais même la littérature.
Il y a de plus en plus de femmes qui écrivent.
Alors, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, mais leur statut et leur reconnaissance n'est absolument pas identique à celle des hommes.
Et c'est pas votre cas à vous ?
Alors, c'est pas mon cas, mais je veux dire, c'est pas parce que ce n'est pas mon cas. Ce statut d'exception, je le déteste en réalité.
Pourquoi ?
Eh bien, justement, parce que c'est, au fond, dire oui, alors il y en a une parmi d'autres.
Vous êtes l'arbre qui cache la forêt.
Voilà, c'est ça. Je peux pas l'accepter. Mais il y a aussi, c'est vrai, il y avait une sorte d'acceptation des femmes de cette position-là. Inférieur. Le mot inférieur n'est jamais prononcé, mais au fond, c'est ça. Comme si la littérature écrite faite par les femmes ne valait pas celle des hommes. Alors, on peut citer Patrick Modiano, Le Clésio, Solaire, tout, sont des écrivains. Bon. Et quand on parle de femmes, très très souvent, ce sont des romancières. Et moi, par exemple, je suis taxée de romancière alors que je n'écris pas de roman depuis 40 ans.
Oui, vous détestez qu'on vous appelle romancière.
Oui, mais oui.
Vous êtes un écrivain, une écrivaine.
Je suis une écrivaine.
Vous avez changé. Avant, vous disiez écrivain, maintenant vous dites écrivaine.
Oui, j'avais tort de dire que ce n'était pas important la manière d'être désignée. Or, je m'aperçois que si.
Vous avez évolué.
Si. Oui.
Vous avez écouté le témoignage d'Adèle Haenel sur Mediapart.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que vous avez ressenti?
C'était une grande libération d'entendre une parole comme cela. Une parole directe, intelligente, au plus haut point, évidemment politique, et qui ne parlait pas pour elle, mais aussi pour toutes les femmes. Et je pense que toutes les femmes pouvaient le comprendre.
Annie Arnaud, vous êtes allée voir J'accuse de Roman Polanski?
Non, je n'irai pas, pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que ce film fait la part belle au colonel Picard, que c'est historiquement, il y a quelque chose qui est un peu faux. Et puis, bien sûr, à cause de Polanski, c'est-à-dire de cette dénégation qu'il maintient depuis l'affaire Samantha Geiger aux États-Unis en 77, ce déni donc de violence faite à cette jeune fille de 13 ans.
Oui, mais tout de même, quand vous entendez qu'il y a certains élus qui demandent de boycotter le film, de fermer, de ne pas diffuser le film, est-ce que l'auteur que voilà, vous n'êtes pas d'accord?
Non, absolument pas. Je veux dire, je suis pour la liberté complète du cinéma, de la
littérature. Est-ce qu'on va pas trop loin quand on dit il faut pas aller voir les films de Polanski, il faut interdire une exposition sur Gauguin? Est-ce qu'il y a pas un délire un peu
trop... C'est toujours cette idée d'aller trop loin. Il faut d'abord y aller, je veux dire. Et on n'y est pas. Et alors forcément, on lâche tout en ce moment.
Mais on lâche aussi sur la liberté, Annie Arnaud, quand on veut interdire les œuvres.
Alors, non, je ne suis pas du tout pour interdire l'exposition Gauguin, mais que ce soit toujours accompagné d'un discours pour expliquer. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ce discours qui doit accompagner tout ce qui concerne effectivement Gauguin, qui a peint et a vécu avec des très jeunes filles, des impubères, voilà. Donc,
il faut le dire.
Oui, il faut le dire, et c'est au public de faire éventuellement son choix, de dire oui, j'y vais quand même, ou non, je n'y vais pas.
Les Gilets jaunes, vous en avez parlé, l'écrivaine sociale que vous êtes, celle qui écrit pour venger sa race, comme vous dites souvent, a été immédiatement solidaire de ce mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez, vous pensez que ce mouvement est à bout de souffle, qu'il est terminé?
Je ne pense pas, prendra d'autres formes, mais la colère qui s'est levée il y a un an ne peut pas s'éteindre. Pourquoi ? Parce que il y a politisation justement de gens qui, au fond, se sentaient en dehors de la politique et qui ne réfléchissaient pas toujours non plus que tout ce que l'on vit est effectivement politique. Et la conscience, une fois qu'elle est ouverte, ne peut pas comme ça
rentrer dans une
boîte sans ténébrer. Oui, voilà.
Vous dites dans Zadig, ce qui m'a affligée, c'est la distance circonspecte des intellectuels vis-à-vis des Gilets jaunes, comme s'il n'y avait de bons révolutionnaires qu'au passé et choisis par eux. Comment vous expliquez cette réaction effectivement distante d'une grande partie des intellectuels français vis-à-vis des Gilets jaunes?
Oh, je crois que ça vient de très loin. C'est un élitisme qui fait que on pense que les gens qui sont pas éduqués, qui ont des métiers manuels, ne peuvent pas réfléchir. Or, ils peuvent très très bien ressentir, et non peut-être pas les mots, mais une fois qu'ils ont été ensemble, justement, ils ont trouvé des mots, mais qui étaient quelquefois sans doute violents, mais qui disent vraiment ce qu'ils ressentent. Je me souviens, il y a quelques années, à la radio, donc c'était des ouvriers d'une usine qui allaient fermer, et un ouvrier disait « Non, alors, ça fait mal au ventre. » Et c'est une expression que moi j'ai entendue dans mon enfance pour exprimer que non, ça ne va pas, le monde social n'est pas comme il devrait être. Sauf que ce sont ces mots un peu violents.
Mal au ventre.
Oui, voilà.
Ça dit tout.
Ça dit tout. Cette espèce de sentiment, il faut bien le dire, de supériorité parce qu'on a fait des études ou pas.
Et vous appelez ça un inconscient de classe?
C'est un inconscient de classe, un inconscient intellectuel, ce qui est terrible quand on y pense.
Vous restez révolutionnaire?
Je crois.
Vous êtes en train
J'espère.
Vous écrivez en ce moment ?
Oui, un peu lentement, mais ça va.
L'Académie française, ça vous intéresse, Annie Ernaux ?
Ah non, d'aucune façon.
Pourquoi ?
C'est une très vieille institution de conservation qui s'est ouverte aux femmes il y a quand même très peu de temps si on regarde les siècles.
Et alors pourquoi pas vous ?
Non, parce que je ne me vois pas du tout m'occuper du dictionnaire. Non, alors voilà, pour être très franche, je pense que quand on accepte les honneurs, c'est au fond qu'on n'espère plus trop dans son écriture, dans son action, par les mots. Voilà, on siège.
On siège ?
On siège.
Et donc quoi ? On se corrompt d'une certaine manière ?
En tout cas, on ne s'améliore pas.
Merci Annie Ernaux. Je rappelle et j'ajoute que le très long entretien que vous accordez à la revue Zadig sort en kiosque et en librairie ce 28 novembre.
Merci.
Belle journée à vous.
Merci.